Bonjour ou bonsoir, c'est encore une fois Coco, votre hôte dans ce nouvel épisode de Grace Touch. Nous allons aborder l'attente et le prophétique. De quelle attente s'agit-il lorsque nous attendons l'exaucement d'une prière ou la manifestation dans le monde matériel des choses que nous savons être nôtres dans le domaine spirituel? Donc c'est l'épisode numéro 7 de Grace Touch en français. Alors, que veut-on dire quand on parle de l'attente? Il s'agit donc de l'attente de l'exaucement des prières. La Bible a beaucoup de choses à dire sur l'attente. Commençons par Ésaïe, chapitre 40, verset 31. La version second 21 dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Vous vous demandez certainement, mais je n'ai pas entendu le verbe attendre là-dedans. En fait, la plupart des versions françaises parlent de se confier en l'Éternel, d'espérer en lui ou de compter sur lui. Alors que les versions anglaises disent « to wait », le verbe « attendre ». Mais il y a une traduction Osterwald qui parle effectivement de « s'attendre à l'Éternel ». Donc, je vais commencer par lire certains versets bibliques qui parlent de l'attente. D'accord ? De s'attendre à l'Éternel, d'espérer en l'Éternel, d'attendre la réponse et avec patience. Alors, on a Lamentation, chapitre 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. En anglais, ce passage dit également « to wait ». Le psaume 27, 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel ». Et le même psaume, donc j'ai bien dit 27, 14, dans la version Osterwald dit « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie, oui, attends-toi à l'Éternel ». Habacuc 2, 3 dit « En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement ». C'était la version second 21. Psaume 37, verset 7 « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Le psaume 130, verset 5 dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Michée, chapitre 7, verset 7 à 9 dit « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Ésaïe 30, 18 « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Encore une fois, la version française dit plutôt « espérer ». Psaume 39, verset 7 « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance ?» La version Martin dit « Or maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur, mon attente est à toi. » Romains, chapitre 5, verset 1 à 5 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Jacques, chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Lamentation, chapitre 3, verset 26, version second 21 cette fois-ci, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, il y a plusieurs versets tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui parlent de s'attendre à Dieu, d'espérer, d'attendre, etc., de compter sur lui, en décrivant également l'attitude de cœur qu'il convient d'avoir lorsque nous attendons l'exaucement de nos prières. On en conclut donc assez aisément que attendre fait partie de ce à quoi les chrétiens sont appelés et nous sommes appelés à le faire sans douter, sans faiblir le cœur, point d'espoir. Donc, il y a plusieurs exemples de croyants dans la Bible qui attendaient que Dieu exauce leurs prières, gardant leur confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu n'avait pas oublié qu'il exaucerait les prières. Il est question là de croire en la fidélité de Dieu et de tenir ferme dans l'épreuve, comme on l'a vu dans Jacques 1, 12. L'endurance et la patience sont essentielles pour les chrétiens. Nous devons les développer pour pouvoir marcher par la foi selon la volonté de Dieu. Nous l'avons entendu dans l'un des versets que nous avons lu dans le Nouveau Testament. C'est cette endurance qui produit la persévérance, etc., etc. Donc, et cette marche, on parle de marcher par la foi, selon la volonté de Dieu, cette marche comporte de nombreux défis. La parole est très claire sur ce fait. Il est question de s'armer de la pensée de souffrir, l'apôtre Pierre, d'être testé par le feu, de porter sa croix, Jésus, de ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort, encore Jésus, de crucifier la chair, etc. Donc la vie chrétienne est comparée à la guerre. C'est un choix qui sépare les membres d'une famille, les amis, qui divise. Nous sommes appelés à comprendre cela et à être à l'aise avec ces réalités. Pourquoi est-il tellement important que nous comprenions ces choses et que nous soyons à l'aise avec ces choses? Nous allons lire la parabole des 10 vierges. Donc c'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, ce sera du verset 1 à 13. Donc je vais lire à partir du verset 1. Dans la version second 21. Donc on a dit Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors, c'est une histoire intéressante. Regardons certains extraits de ce passage. Déjà, on peut commencer par dire que cette histoire nous parle du royaume des cieux. Jésus-Christ, l'époux de l'Église, son épouse. Alors, qu'est-ce qui différencie les vierges folles des sages? Les sages ont pris de l'huile avec leur lampe. Pas les folles. L'époux tardait, donc toutes les 10 vierges se sont assoupies et se sont endormies. Alors, arrêtons-nous là un instant, être assoupi. Il est question d'avoir sommeil, d'avoir les yeux qui se ferment, pratiquement d'être endormi en fait. On est sur le point, on a un sommeil léger en quelque sorte. Alors cette histoire d'assoupissement m'a rappelé le passage dans Éphésiens 5, 14 qui dit, je vais le lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Donc, il faut attendre dans un état d'éveil, en étant alerte. Attendre en sachant que Christ viendra, qu'il répondra, qu'il tiendra sa promesse, et cela détermine donc notre attitude pendant que nous attendons. Dans cette parabole, bien que les 10 se soient endormis, les sages ont pu partir avec l'époux. Les autres ont dû aller chercher de l'huile, et elles ont en quelque sorte raté le coche. C'est donc une leçon que nous pouvons tirer de cette histoire et que nous devons être prêts à tout moment. Alors, tous les passages que nous avons lus avant montrent que Dieu est vraiment intéressé par notre attitude dans l'attente. Les passages que nous avons lus nous donnent des exemples. Attendre en silence, attendre le cœur plein d'espérance, attendre en faisant la volonté de Dieu, les yeux fixés sur lui, etc., etc. Le psaume 25, au verset 3, nous rappelle que nous ne serons pas déçus lorsque nous attendons l'intervention de l'Éternel. Romains, chapitre 12, verset 12, nous donne les clés. On le lit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Nous croyons que la réponse du Seigneur arrivera au moment opportun, fixé par lui, et nous attendons patiemment. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vais le lire dans une autre version. Martin, par exemple, le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Donc, l'attente avec la bonne attitude, sachant que Dieu est Dieu et qu'il fera ce qu'il a promis. Attendre avec espérance, attendre sans s'inquiéter, c'est très important. Et cette attitude nous permet de ne pas oublier les exploits que l'Éternel a accomplis par le passé. Cela nous permet aussi de développer une confiance plus grande au Seigneur, parce qu'il nous émonde dans ce processus d'attente et nous rend progressivement capables de maintenir la bonne attitude et de garder la joie, même quand nous ne savons pas quand la délivrance se manifestera. En fait, toutes nos délivrances ont déjà été accomplies. La croix, la résurrection, etc. Qu'Allah tout est accompli, a dit Jésus. Donc ce que nous attendons, en fait, quand nous attendons, c'est la manifestation sur terre de choses qui nous ont déjà été accordées. Nous devons donc prendre la décision d'être prêtes comme les vierges sages, ou d'être prêts. Oui, toutes les vierges sont endormies, les sages comme les folles, parce qu'elles sont humaines, elles étaient fatiguées. Mais les sages étaient prêtes. Et elles avaient décidé à l'avance de l'attendre, d'attendre l'époux et d'être prêtes quand il arriverait. Cela évoque un peu l'idée d'un soldat qui est préparé pour la bataille et qui est prêt à renouveler ses forces. À croire, comme le dit Habakkuk, que la vision s'accomplira au moment fixé par Dieu. C'est très important. Il est crucial que nous comprenions qu'il n'y a pas d'autre moyen, parce que Dieu veut que les choses se passent ainsi, parce qu'il veut nous purifier, nous amener à une maturité qui nous permettra de dire « J'attendrai l'accomplissement de la promesse de Dieu, quel que soit le coup. » Il veut nous amener au point où nous disons « C'est toi que je veux, Jésus. » Où les choses que nous attendons ne comptent pas tant que ça. Mais que le plus important pour nous, c'est véritablement Jésus et notre relation d'intimité avec lui. Où nous disons « C'est parfois difficile, mes yeux faiblissent. » Je m'assoupis, mais je t'attendrai. Alors on peut se poser la question, quel rapport avec le prophétique? Alors qu'est-ce que j'entends par le prophétique? Je parle ici du don de prophétie mentionné dans le Nouveau Testament. Plusieurs théories circulent dans le corps de Christ sur le prophétique. Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe plus? Est-ce que ça a expiré et ça ne nous concerne plus? La Bible ne semble pas indiquer cela. Tout au contraire, la parole semble indiquer que c'est toujours valable et utile pour l'Église aujourd'hui. Regardons quelques passages bibliques. 1 Corinthiens 13, 8 à 12, par exemple. La version Osterwald dit « La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies et les langues cesseront et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément. Mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Certains disent dans le corps de Christ que nous sommes à cette période de l'après, de la vision parfaite. Franchement, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas cette perfection. Donc pour l'instant, de ce que je comprends, les prophéties sont toujours d'actualité. À vous de décider ce qui vous semble correct. Nous sommes tous et toutes enseignés par le Saint-Esprit. Alors, si nous regardons dans Actes 2, 17 à 18, ce passage nous rappelle la prophétie de Joël. On va lire cela. Version 8 secondes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes vraisemblablement dans les derniers jours. Je sais que cela fait longtemps qu'on dit que c'est les derniers jours, mais si nous regardons un peu ce qui se passe dans le monde, on voit que certainement nous nous rapprochons véritablement des derniers jours. Donc on est d'accord, on parle de la prophétie dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que la prophétie dans le Nouveau Testament? C'est une parole inspirée et activée par le Saint-Esprit. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 30. On va regarder 29 à 30. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. L'apôtre Paul continue en donnant des directives sur la manière de gérer ces prophéties de façon ordonnée dans l'Église. D'accord? Alors, il y a une chose qui est vraie par rapport aux prophéties dont l'apôtre Paul parle dans le Nouveau Testament. Nous sommes faillibles. Le passage qu'on a lu avant disait que nous ne voyons pas de manière parfaite, nous ne voyons pas de manière claire. Nous sommes faillibles parce que notre perception et compréhension en tant que récipient de la prophétie inspirée par Dieu, en tant qu'humain, nous sommes humains, hein, bien que nous recevions quelque chose de parfait du Seigneur, parce que cela passe par nos esprits, nos pensées, etc., nous pouvons facilement nous tromper, l'interpréter, ce que Dieu nous dit de manière erronée. Donc, notre compréhension est limitée. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à laisser nos prophéties, être examinées et confirmées par d'autres. D'accord? Une parole de prophétie n'a pas la même autorité que la parole de Dieu, par exemple. Ok? Alors, si nous pouvons regarder dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, l'autorité de la parole est claire. 2 Timothée 3, 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu ne se trompe pas. Donc voilà une parole d'autorité, c'est tout ce qui est dans les Écritures. Par contre, nous l'avons dit, la prophétie telle qu'elle est présentée par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle passe par nos esprits, par nos pensées, etc. Et nous pouvons l'interpréter facilement à la lumière de ce que nous connaissons de notre expérience personnelle. D'accord? Et c'est un don. C'était le don de prophétie. Alors, si certains ou certaines pensent aux prophètes de l'Ancien Testament, c'est différent. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament, comme Moïse, par exemple, s'exprimaient, Dieu leur donnait un message clair, il n'y avait aucun doute. Leur parole avait une autorité établie par Dieu. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des faux prophètes, mais ceux-là, généralement, ne communiquaient pas ce que Yahweh voulait communiquer, mais plutôt des mensonges ou des messages de fausses divinités. Alors, l'autorité suprême est celle de Jésus, qui, durant son ministère terrestre, était la parole vivante. Il était lui-même la prophétie parfaite. Cela est donc très différent de la prophétie du Nouveau Testament. On a bien dit qu'elle n'est pas parfaite. Par contre, elle est très utile, elle est bonne. Elle sert à édifier, encourager, consoler, convaincre, corriger et guider l'Église. Et comme on l'a dit auparavant, elle doit être confirmée. Dieu est souverain, c'est un don. Donc il donne ses dons à qui il veut. Mais la parole nous dit de désirer le don de prophétie, voire regarder 1 Corinthiens 14, 1. La parole est claire là-dessus. Hein? D'aspirer aux dons, de prier pour les recevoir, toujours dans 1 Corinthiens 14, de se réjouir de ce qu'on a reçu, de ne pas se comparer, d'être focalisé non pas sur les dons, mais sur celui qui donne. C'est un don. Cela veut dire que c'est gratuit. Nous ne méritons pas les dons spirituels. Et nous devons avoir le courage de dire ce que Dieu nous révèle, tout en étant humble quant à la manière dont elle est reçue. Quand on donne une prophétie à quelqu'un, les personnes qui la reçoivent sont libres de l'accepter ou de la rejeter. Donc il nous faut à tous, à ceux et celles et ceux qui donnent et celles et ceux qui reçoivent, la maturité et l'amour, et nous devons être remplis de la paix de Jésus. Alors, vous pouvez maintenant vous demander comment ce don peut nous aider à attendre, puisque, je le rappelle, on parlait d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu ou l'exaucement de nos prières. Alors, attendre, c'est un peu comme avoir la foi. Hein, dans l'hébreu, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand on attend, cette attente avec la bonne attitude de cœur, c'est la foi. En fait, c'est une manifestation de la foi. Bien sûr, la parole de Dieu nous aide à attendre parce qu'elle nous rappelle qui Dieu est, ce qu'il a fait dans le passé, etc., qu'il ne change pas et tout ça. Donc cela nous aide à attendre avec la bonne attitude. Mais les prophéties également peuvent nous encourager et nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés parce qu'elles sont souvent spécifiques, elles sont souvent personnelles. D'accord? Alors, nous devons savoir que ces choses que nous avons demandées à Dieu, ces promesses bibliques particulièrement, je ne parle pas des choses personnelles où nous avons besoin de confirmer avec Dieu que c'est vraiment ce qu'il veut nous donner, mais les choses, par exemple, qui sont claires, soit qui ont été confirmées par plusieurs personnes, hein, la parole de Dieu, il faut trois témoins pour qu'une chose soit confirmée et établie, soit parce que ce sont des promesses faites à tout le monde, à tous les chrétiens, à tout le corps de Christ. Lorsque nous savons que ce sont des choses que nous devons recevoir, ces choses existent. Elles n'ont jamais cessé d'exister. Parce que dans la dimension spirituelle, toutes nos promesses existent. L'attente, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, hein, c'est une image que je donne, c'est un peu comme attendre que ces choses quittent la dimension spirituelle, traversent le voile qui sépare le spirituel du matériel et se manifestent dans le monde matériel. J'espère que cette image que j'ai donnée vous aide à comprendre un peu de quoi je parle. Donc les prophéties peuvent nous aider parce qu'elles nous encouragent, elles nous rappelleront que nous ne sommes pas oubliés. Si quelqu'un nous a donné des paroles précises, des paroles de connaissance sur notre vie, hein, sur ce qui va arriver, sur ce que Dieu veut nous donner, nous pouvons toujours les relire et prier. Hein. La parole dit que nous sommes les collaborateurs et collaboratrices de Dieu. Nous pouvons prier pour la manifestation de cette prophétie, pour être prêts, pour avoir la bonne attitude, etc., etc. Donc ces paroles prophétiques peuvent nous donner des directives spécifiques pour nos vies, nous amener à avoir foi que Dieu a dit, et ce qu'il a dit, il le fera. Sa main n'est pas trop courte. Et c'est intéressant parce que par le don de prophétie, Dieu permet en quelque sorte que nous dépendions de nos frères et sœurs qui nous donnent des prophéties. Mais par-dessus tout, nous dépendons de Dieu qui révèle des prophéties. Donc, si vous êtes dans l'entre-deux, dans l'attente de plusieurs choses, que vous n'êtes plus là où vous étiez avant, mais vous êtes dans l'attente de la manifestation, de guérison, de bénédiction, de délivrance, du retour à la fois d'un frère, d'une sœur, d'enfant, etc., de réconciliation dans la famille, quel que soit le fardeau sur votre cœur, soyez encouragés, surtout si vous êtes dans l'entre-deux. Il est fidèle. Et dans l'attente, il produit en vous un fruit qui ne périra pas, un fruit incorruptible. Il vous émonde, il affine votre foi, il vous purifie par le feu. Voilà. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Donc j'espère que cette discussion vous aura encouragé. On va terminer en relisant Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. En anglais, ce serait donc ceux qui attendent de l'Éternel. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Soyez encouragés, notre Dieu est fidèle. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. À la semaine prochaine, c'était Coco pour Grace Touch en français.